R22 Tout Monde, antenne École du Magasin, Take You There Radio. Radio. Abréviation de radiodiffusion, radiographie, radiotéléphone. Poste récepteur de radiodiffusion sonore. Émission. Production de signaux sonores ou visuels. Programme ou tranche de programme de radio ou de télévision. Manière de produire des sons vocaux avec tous les moyens techniques appropriés. Production de signaux à l'entrée d'une voie de transmission. Production de signaux rayonnés par une antenne alimentée par un émetteur, en vue d'assurer une radiocommunication, ces signaux eux-mêmes. Émetteur. En cybernétique, organe traduisant les diverses positions qu'il est susceptible de prendre par l'émission des signaux caractéristiques de ces positions. L'une des trois électrodes d'un transistor, constituant la région la plus dopée. Appareil destiné à produire des signaux radioélectriques et à les fournir à une antenne en vue d'une radiocommunication. La plupart des émetteurs comprennent au moins un oscillateur pilote et un modulateur, des amplificateurs de puissance et des alimentations en énergie. Un oscillateur pilote, un modulateur, des amplificateurs de puissance et des alimentations en énergie. Voilà ce qui va créer le signal qui portera des voix, des messages, des œuvres. Les premières émissions de signal radiophonique ont lieu à la toute fin du 19e siècle. Sans interruption depuis, cette technologie s'est développée et nous possédons de plus en plus d'outils pour capter ces émissions. C'est l'histoire d'une transformation aussi. La radio n'a pas échappé à la miniaturisation et à la numérisation. Les émetteurs tiennent dans la paume d'une main et les composants sont facilement accessibles. Des artistes et des collectifs aux quatre coins du monde en profitent pour apprendre à d'autres personnes ou communautés à créer leur propre émetteur radio, voire leur propre station. Pourquoi, aujourd'hui, est-il important que des gens utilisent la radio en construisant leur propre outil ? Pour répondre à cette question, nous avons discuté avec des artistes, des activistes et des ingénieurs en Argentine, au Japon, en Écosse et en Allemagne. En filigrane, nous entendons dans ces entretiens une ébauche de définition de la radio contemporaine comme moyen d'expression. Les personnes interrogées nous décrivent leurs ateliers de construction de stations radio et d'émetteurs radio comme ayant des buts différents, notamment d'ordre artistique, politique, social ou éducatif. La légèreté, le faible coût et la rapidité d'installation font de la radio un moyen d'expression mobile et réactif. Par exemple, c'est un outil idéal pour répondre aux besoins de communication existant dans les zones de conflit social. La radio a également une flexibilité et une versatilité qui en font un espace idéal pour l'expérimentation artistique. Loin de vouloir présenter de façon exhaustive les acteurs et les problématiques actuelles de la radio, ces témoignages ouvrent des portes sur des environnements et des regards. Chaque entretien est contextualisé en évoquant les différences entre hier et aujourd'hui. Hier faisant référence au moment où les personnes interrogées ont commencé à mettre en place des radios et conduire des ateliers. Suivant les pays et les décennies, les problématiques évoquées tournent autour de différentes ruptures, comme l'avènement du numérique ou les lois de télécommunication qui changent. Tetsuo Kogawa est un pionnier du mouvement Mini-FM, l'équivalent japonais des radios libres. Il a créé des radios communautaires à petite échelle, dont l'émission avait lieu depuis des appartements privés. Des conversations informelles s'y tenaient et chaque auditeur pouvait s'y joindre et participer. C'était à Tokyo, au milieu des années 80. Il s'exprime ainsi sur la situation japonaise à l'époque.
Politiquement, au Japon, les mouvements étudiants se terminaient et la manipulation de la société par les médias de masse grandissait sans répit. Étant donné que la société japonaise était très contrôlée, il était plutôt difficile de créer des contre-médias. Notre radio Mini-FM a donc commencé à l'intérieur d'une fraction des médias de masse et des régulations inflexibles de la radio. Les participants à cette radio venaient d'une nouvelle génération post-politique, plutôt qu'ex-activiste. Ils savaient ce qui était arrivé à la génération des années 70, mais avaient exprimé la politique moins physiquement.
C'est dans ce contexte qu'il commence à construire des mini-émetteurs FM.
Il n'existait pas d'émetteurs abordables et appropriés pour les radios libres. Notre mouvement a inspiré des grandes compagnies d'électronique comme Sony et Panasonic qui ont commencé à vendre des émetteurs préfabriqués pour mini-FM. Ceci dit, ils étaient complètement inefficaces, même pour une toute petite couverture de 100 mètres carrés. À cette époque, je m'attendais à l'apparition d'une communauté radicale autour de nos transmissions libres. Du coup, la couverture de transmission devait avoir un rayon d'au moins 500 mètres. Les grandes compagnies japonaises étaient très subordonnées à la loi. Elles étaient en fait très prudentes sur la vente de vrais émetteurs.
Les ateliers de Tetsuo Kogawa ont été connus du grand public des années plus tard. Limités à des communautés très restreintes de la radio libre et de la performance artistique, ils ont gagné en reconnaissance d'abord outre-Atlantique.
Didi Alec de Paper Tiger Television à New York et Hank Bull de Western Front à Vancouver étaient intéressés par mes tentatives dans le contexte de l'art contemporain et de la technologie. Didi a produit un programme télé intitulé « Tetsuo Kogawa no Miton, un émetteur FM », tourné en 90 et diffusé en 91. Hank a été à l'initiative de mes premiers ateliers comme « Repenser la radio », en 90, au Baum Center for the Arts.
You have the already global networks. So my argument is very simple. The present media is too large and wasteful. From now on, we should think about the more smaller media to diverse our culture and community. I have different idea on airwave. Airwave belong to the every people, everybody, not to the states or a government. Okay, I will make the transmitter now.
Aujourd'hui, quand il parle de ses ateliers, Tetsuo Kogawa évoque le changement apporté par Internet.
Quand Internet s'est généralisé, les gens qui étaient intéressés par une radio à message indépendant ont progressivement choisi Internet. C'est cela qui m'a poussé à proposer mon idée initiale qui était d'utiliser des émetteurs pour de l'art radiophonique. Pas pour une fonction conventionnelle liée au message, mais pour une résonance plus conviviale, dans le sens d'Ivan Illich, et du couplage structurel d'Umberto Maturana et Francisco Varela.
Pour lui, la transformation et le rapetissement des ondes à l'ère du numérique affectent aussi la conception des émetteurs et l'utilisation que les gens en font. On passe d'un moyen d'expression et de rassemblement communautaire à un médium artistique.
Aujourd'hui, quand on parle de transmission sur les ondes, l'échelle de transmission devient de plus en plus petite, jusqu'à atteindre celle des neurotransmetteurs. Par conséquent, j'ai changé le modèle de mon atelier. Les émetteurs d'un watt utilisés pour des radios communautaires sont devenus des émetteurs plus petits, entre 10 et 50 milliwatts. Apparemment, c'est plus pratique pour les artistes qui sont intéressés à l'utilisation d'émetteurs dans leur travail.
Les modèles d'émetteurs inventés par Tetsuo Kogawa sont utilisés par beaucoup d'artistes et d'activistes. Parmi eux, Thomas Leland Collins, un artiste écossais qui utilise la radio dans ses installations sonores et collaboratives. Il a aussi mené des ateliers de construction d'émetteurs en 2012 et 2013. Quand certains s'inquiètent de la métamorphose du paysage de la radio analogique, Thomas Leland Collins s'en réjouit. Dans plusieurs pays, les ondes AM et FM sont touchées par des changements structurels dans les télécommunications, notamment avec l'arrivée de la radio numérique. Réforme plus ou moins suivie selon les paysages nationaux, elle peut paraître tantôt comme une menace, tantôt comme une révolution qui rendrait obsolètes les ondes hertziennes. Pour Thomas Leland Collins, puisque tout passe au numérique, les ondes radio sont devenues un open space idéal pour faire des expériences avec des technologies très accessibles.
How to really take that a step forward and to make something, you know, create like an interesting community or dynamic of micro radio, but within like a local context, or at least to kind of voice, the kind of, I don't know, goings on, whether that's like, you know, group discussions or events or artistic performances or this sort of thing within very specific areas. I think that's what I'm interested in. I mean, you know, there's enough broadcasting within today's mainstream kind of radio. But now everything's going digital anyway. There's so much space on the airwaves. I think it's a really real kind of open space to try things out with really accessible, cheap, you know, technology.
Comme Tetsuo Kogawa, il associe à Internet le fait que la radio est de moins en moins utilisée pour créer ou animer des communautés. Pour Thomas Leland Collins, malgré l'accessibilité de cette technologie, son utilisation se restreint à des groupes artistiques assez fermés. Tetsuo Kogawa, de son côté, l'a bien compris et modifie ses ateliers et ses émetteurs à destination de ce public précisément, alors que Thomas Leland Collins cherche maintenant à rendre la mini-radio indépendante de la sphère artistique. Inspiré par le mouvement mini-FM au Japon, Thomas Leland Collins se demande comment le reproduire à Glasgow au temps d'Internet.
In Tokyo, so densely populated that a couple of blocks is maybe like 1,000 people. But in Glasgow here, it's quite sparse. And how do you make people aware of the fact that it's happening in the first place? I think we, you know, when they were doing that sort of thing, obviously this was before there was really anything digital. This was probably before the internet existed. So, you know, maybe the radio was like most people's form of communicating with the outside world. So there was a much higher likelihood of people actually like tuning through the dial and accidentally discovering, you know, this thing. But nowadays, it's hard to, to bring that into the sphere of the everyday without necessarily going through the kind of conventional artistic platforms, which is quite maybe insular. You know, like quite kind of specific group of people, and just to kind of maybe make it more accessible to the general public.
Au Royaume-Uni, les radios communautaires ne pouvaient exister légalement plus de 4 semaines, à l'exception des radios d'hôpitaux qui existent depuis le début du XXe siècle. C'est en 2002 que la loi a changé, permettant la création de centaines de radios et notamment Résonance FM, une radio artistique londonienne. Sarah Washington et Knut Hoffermann ont été à l'origine de cette radio dès 2002, avant de travailler ensemble sous le nom de Mobile Radio. Aujourd'hui, ils font le tour du monde pour installer des radios artistiques et faire des ateliers sonores.
Você está ouvindo a Mobile Radio BSP. Transmitindo 24 horas, de 3 de setembro a 9 de dezembro. Ao vivo, da 30ª Bienal de São Paulo.
Écoutons Knut Hoffermann nous parler du contexte légal délicat en 2002 et de la naissance de Résonance FM.
Well, actually, there was very few pirate radios that became licensed around that time. There was a period where very few of them managed to get a commercial license. Kiss FM was one of them. That was in the late 90s. A lot of others weren't allowed by law, and this is still the case. It's still part of the law. If you were in any way involved in pirate radio, you have a 5-year ban of getting involved with anything that might be legal. So if you were a pirate radio person who is known to the authority as a pirate radio person, you can't apply for becoming a community radio unless you go silent for 5 years beforehand. In 2002, it was really the case that the government wanted to establish the community radio. And that's where they gave the allowance to test 15 radio stations across the country. And Resonance was one of them.
2002 n'a été que la première année de test de cette réforme du paysage radiophonique au Royaume-Uni. Selon Sarah Washington, ce fut une année qui venait avec son lot de nouveautés et d'incertitudes, mais qui était aussi très riche localement et internationalement.
The law didn't change immediately. That was a pilot scheme to see how it would work, if there was interest in it and if the radio stations would be able to maintain themselves, to sustain themselves. It was supposed to last only for a year, but it dragged on for about 3 years because they took a long time to draw up their recommendations. So in that time, we didn't know if we were going to become a permanent station or not. It was just a temporary thing. But I think it's interesting because around that time, there were a lot of radio art initiatives starting up internationally. It was a very productive time. For instance, Arte Radio in France started in 2002. Some other radio projects around the world started up exactly at that time. There seemed to be this concentration. It was like a magnifying glass catching the sun on a piece of paper, you know. Suddenly, there was this interest.
DTL Comunicación Popular est un collectif argentin qui promeut les médias alternatifs en installant des stations radio et télé communautaires. Ils organisent également des ateliers de réflexion sur les médias et de construction d'émetteurs et d'antennes.
No puede ser susceptible de valor la forma en que nosotros nos vinculamos, nos comunicamos, contamos nuestra historia o recibimos información. La capacidad de acceder queda limitada a aquellos que tienen los recursos para hacerlo.
En Argentine, ils bénéficient d'une loi sur les médias qui place les radios communautaires dans un vide juridique et leur donne donc un peu plus de liberté que dans d'autres pays. Cette loi sur les médias, votée il y a 5 ans, a placé les médias communautaires au centre des débats et a favorisé une certaine reconnaissance. Mais malgré ce contexte politique qui a évolué entre leur début en 2007 et aujourd'hui, le contexte social dans lequel ils militent n'a pas changé. Ils agissent notamment dans les mêmes tomas ou occupations de terrain qu'il y a 8 ans.
Je pense qu'il y a un contexte politique qui a peut-être un peu changé, mais par contre un contexte dans la pratique, c'est-à-dire dans le genre de situation dans lesquelles on peut être amené à intervenir, qui sont assez similaires. Enfin, par exemple, justement cette Toma de 2007, il y en a eu une nouvelle juste à côté, enfin en limite, donc pour agrandir le bidonville, l'année dernière. Donc c'est en fait, ça reste des thématiques totalement d'actualité, un contexte totalement d'actualité. Ce qui a changé, par contre, c'est peut-être le discours officiel par rapport aux médias. Donc un peu par rapport à la loi sur les médias que le gouvernement de Cristina Kirchner a fait voter, donc il y a maintenant 4 ans, le temps passe super vite, il y a maintenant 5 ans, mais qui a commencé à être appliqué beaucoup plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de recours de la part justement des secteurs de l'opposition. Donc c'est vrai que par rapport à cette nouvelle loi des médias qui est censée être plus démocratique, d'ouvrir le jeu un peu à tout le monde, le panorama est un peu différent puisque c'est devenu un sujet de débat public, c'est-à-dire les médias, pas alternatifs, mais les médias communautaires, les médias à but non lucratif. C'est quelque chose qui est devenu un peu consensuel. Donc on entend dans le débat public, sans que ce soit vraiment une réalité après par rapport à l'application de la loi ou une réelle volonté politique sur le terrain, mais en tout cas vers l'extérieur ou dans les médias à faveur du gouvernement, c'est vrai que ce thème est davantage traité qu'à l'époque en 2007 quand ceux du collectif avaient commencé leurs actions. Donc c'est un nouveau contexte, mais avec quand même c'est un nouveau contexte politique, mais avec un contexte social qui reste avec les mêmes problèmes au ras du sol. Un peu quotidiennement.
Quels sont les enjeux de la construction de stations par rapport aux ateliers? Il y a une différence entre construire des stations radio de A à Z et conduire des ateliers de bricolage d'émetteurs, notamment au niveau de l'échelle de la réalisation, mais aussi de l'utilisation qui en est faite. Nous avons demandé aux artistes et activistes quelle utilisation des équipements ils encourageaient, plutôt individuelle ou collective. Cette dichotomie se retrouve également dans le débat entre faire et faire-faire, où les rapports entre une personne et son outil ne sont pas du tout les mêmes. Il faut faire attention à ne pas confondre groupe de personnes et communauté. C'est Gregory Whitehead dans la bouche de Thomas Leland Collins qui nous le dit.
There's this one little quote here that's, the slogan that communication equals community, that's in brackets, is only true when people are willing to work very hard to achieve it. And are then willing to fight to preserve the fragile community they have built. I don't know, that kind of stands out for me quite a lot.
Thomas Leland Collins s'interroge sur les réseaux sociaux et l'illusion de faire partie d'une communauté et de se placer dans un dialogue. Pour lui, pratiquer Facebook, c'est souvent rester dans le monologue. Il faut chercher alors à profiter d'un lien communautaire qui existerait déjà et le renforcer.
Maybe the individual is, I guess you then don't have people opposing thoughts. Or it becomes too much like Facebook. Or when the group thing, or it's like with the Facebook, somebody puts a post, but then there's a reply. Or people like have a comment on it. So you at least have not just one person's point of view, but you then having, you know, criticism, okay? Because you need criticism. Otherwise, it's just somebody, you know, potentially saying quite, not necessarily controversial. You know, obviously, I think it needs to be put in context. But then I was saying, how would you create a group situation without it being too contrived? But yeah, as you said, it's like maybe just finding a community who meets somewhere. In like a community center or something like this regularly every Friday. Even if that's for like old people, I don't know, like, you know, they meet up for like tea every Friday to just talk about their life, you know, in that kind of situation, potentially like some of their friends who might be ill, who might not be able to make it, then they could listen in at home and still be part of the conversation or still be, you know, because obviously, you know, they wouldn't use Facebook or something like this. But I guess it's difficult when you're working with teenagers who have grown up in a Facebook internet world.
Tetsuo Kogawa nous parle justement de l'ère de l'ikikomori, qui décrit une isolation extrême des jeunes japonais qui restent enfermés chez eux et dont les relations sociales existent dans une sphère exclusivement numérique. Il semblerait selon lui qu'il soit de plus en plus dur de connaître une convivialité sincère.
À l'ère de l'ikikomori, un individu est composé de plusieurs individus moléculaires. Il reste tout de même une question. À part si chaque individu est heureux et satisfait, le groupe peut-il bénéficier d'une convivialité créative, bonheur collectif? Le contraste entre individu et groupe est-il encore pertinent? Je suis un témoin historique de la collectivité altruiste de type banzai et, en même temps aujourd'hui, de l'isolation ikikomori, hyper égoïste. La tendance subjective du monde a l'air de devenir une combinaison des deux.
C'est évidemment aussi l'outil en lui-même qui va définir son usage. La puissance de l'émetteur et la couverture font partie des premières questions qui sont posées dans ces ateliers. À combien de gens vais-je pouvoir parler? Combien de mètres carrés vais-je couvrir? Certains des artistes interrogés pour ce programme déplorent cette dictature des nombres car elle est liée à un déni de convivialité et à un déracinement.
Yeah, I think that's the other thing, isn't it? It's like, how do you get people to think much more locally? Because they're always like, oh, how powerful is this? How far will it go? We want to broadcast to as many people as I can, as opposed to thinking, you know, this could just be used for my neighbors, like people who live next door, people who are kind of much more within the local context, and as I said before, could potentially just walk through your door, you know, they want something like, but then it's just like, well, then how is that different to the internet, you know, if you're just broadcasting far and wide?
Tetsuo Kogawa, lui, adapte ses ateliers et ses modèles d'émetteurs selon le public visé. C'est la puissance qui va définir l'utilisation.
Cela dépend de qui participe. Quand les artistes sont majoritaires, ils veulent utiliser leur émetteur pour une performance de radio-art. Parfois, j'organisais une partie de l'atelier sur comment utiliser leur émetteur. Ils trouvaient beaucoup d'idées intéressantes pour les utiliser de façon créative. Le plus petit modèle que j'ai conçu et qui a été utilisé dans mes ateliers les plus récents est vraiment peu puissant. Mais avec une antenne appropriée à une hauteur suffisante, il pouvait être utilisé pour une micro-communauté radio avec un rayon de 100 ou 200 mètres. Ça serait très sain car il n'y aurait pas de pollution électromagnétique. Mais la plupart de mes participants n'étaient pas sensibles à cet aspect de ce modèle et préféraient un modèle plus puissant. Du coup, ils utilisaient celui qu'ils avaient dans mon atelier comme un test de diffusion où ils le ramenaient à la maison, à leurs enfants, comme un jouet. Ce qui est OK.
le DIY, Do It Yourself, est le principe de ces ateliers de création d'émetteurs. Construire son propre outil, c'est acquérir une autre forme de connaissance basée sur la pratique. La maîtrise de l'outil vient du suivi de la construction étape par étape et, selon l'organisation de l'atelier, de sa personnalisation à l'utilisateur, par l'utilisateur. Les modèles d'émetteurs de Tetsuo Kogawa sont parfois revendus sous forme de kits. Mais pour lui, il est beaucoup plus intéressant d'avoir une expérience plus directe dans la construction de l'outil. Et il nous dit pourquoi.
J'ai reçu beaucoup de courriels et de contacts de gens intéressés par la fabrication d'un circuit imprimé et la vente d'un kit basé sur mon modèle d'émetteur radio. Mon design est libre de droit, donc il n'y a pas de souci. Par contre, j'attends des participants à mes ateliers qu'ils expérimentent le processus de transmission de leurs propres mains et sens. Je les encourage toujours à comprendre la pertinence du do-it-yourself aujourd'hui. Avec le do-it-yourself, chaque individu doit faire les choses soi-même. Ils peuvent avoir le résultat inattendu quand ils travaillent ensemble en tant que groupe.
Pour Sarah Washington et Knut Offerman, tout l'enjeu des rencontres sous forme d'atelier est que les participants créent ensemble. En plus de l'aspect individuel de la construction d'un outil qui sera propre à chacun, leur utilisation en groupe est primordiale. Par exemple, dans le cas d'instruments de musique ou de radio hacking, chaque atelier est suivi d'un concert ou d'une performance.
We like to see outcomes. We don't just like to go in and say to somebody, okay, here's how you make radio, off you go and find a way to do it. We like to be more embedded in the whole process so that when we go somewhere, we actually find a way for them to get on air as well. Otherwise, it's, you know, it's like when we used to teach people how to build instruments, or sometimes we still do radio hacking workshops. It's not enough for us just to show them what to do. They have to be able to play the instruments, you know, and think of a way of performing together, and something like that is of interest to us, rather than just teaching somebody skills. So I'd say that they're part of a process. The two things for us are quite joined.
Chez DTélé, les ateliers ont été conçus pour répondre à une demande massive d'installation de radio à laquelle ils ne pouvaient plus répondre. Plutôt que d'aborder chaque projet individuellement, les ateliers étaient réellement du travail de groupe où chacun travaillait sur les émetteurs des autres.
On a été mis en place ces ateliers donc sur une semaine, avec un rythme de travail collectif en fait, où donc encadré par les membres du collectif, chacun avec leur savoir un peu respectif. Des ateliers de montage ont été organisés pour les antennes et les émetteurs, mais donc tout le monde travaillait un peu sur l'émetteur de tout le monde. C'était pas du tout une pratique individualiste. C'est quelque chose qui est assez important dans la vision du collectif.
Le but ultime de l'atelier n'étant pas que la construction de l'outil, mais surtout la création d'un réseau fort de solidarité et d'information dans un pays qui est très vaste.
En fait, ce qui était intéressant des ateliers, c'était permettre même avec un émetteur de petite puissance de consolider un projet, de leur donner la première pierre, et qu'une fois que le projet humain est construit autour de cet émetteur, bon bah voilà, après il faut faire quelques soirées, vendre quelques empanadas et on peut passer un émetteur plus important. Mais c'est vrai que ça a permis d'un coup à beaucoup de projets de naître, de pas être bloqués, de les mettre, de un peu dédramatiser le côté technique de la radio. Enfin, le dédramatiser, d'en prendre conscience, un peu les deux à la fois, je pense. C'est-à-dire, voilà, une radio, c'est pas seulement j'ai un micro, je parle, et puis voilà, c'est bon. Non, c'était bien que les gens comprennent comment ça fonctionne, et puis aussi de voir qu'ils sont capables de comprendre comment ça fonctionne. D'être capacités aussi pour, une fois eux retournés dans sur leur territoire, de pouvoir faire face à des problèmes que la radio peut avoir. Donc. Et puis aussi de se connaître... de connaître des gens qui font la même chose que toi. L'Argentine est un territoire très grand, donc c'est un peu difficile d'imaginer par rapport à l'Europe où tout est petit et on peut changer de pays deux fois en faisant 3 heures de route. L'Argentine, tout est très loin, c'est assez cher de voyager, donc c'est des gens qui se voient pas forcément souvent, mais ça permet de lier justement des liens assez forts pour la suite, pour que ce soit l'échange d'informations, la solidarité. Si une radio a un problème, ça nous est déjà arrivé au sein du réseau. Voilà, une radio, une tempête, une antenne et une tour qui tombe. Bon, bah alors, ah, bah, moi, il me reste un bout d'antenne, moi, j'ai un bout de tour.
Dans le cas d'installation de stations radio, le plus important selon Mobile Radio est de faire appel à des locaux pour participer à leur construction. Sarah Washington et Knut Hoffermann sont présents durant toute l'aventure pour non seulement enseigner toutes les données techniques, mais aussi assister à la production de matériel radiophonique. En plus d'apprendre aux participants à construire un outil, ils leur apprennent à s'en servir. Mais attention, Mobile Radio ne sont pas des gens qui enseignent. Leur philosophie de travail et de création tourne autour du regroupement et de la participation des personnes. Souvent, quand les participants à leur radio leur écrivent en leur parlant de tel ou tel projet radiophonique qui a succédé à leur présence, il s'agit d'un travail qui était déjà en cours et auquel Mobile Radio a offert une vitrine ou des alternatives.
A few of the other program makers, some of them, one of them had been making kind of private radio already. Him and a friend of his had been making these radio shows kind of in their bedrooms, and through mobile radio they came out and did it in public. And they carried on doing it and kind of broadened their plans and now have plans to set up a commercial radio project. And they've also got involved with a venue where they can do live radio stuff. And they also want to set up a project that develops, that teaches young people to develop their interest in art. So I think it really helped them, you know, carry on what they were doing, because we found with a few people that we met, they'd been doing stuff on their own, but they felt really, really downhearted and kind of discouraged from continuing with their work because they weren't finding anywhere, any outlets for it. And when we did our radio project, suddenly somebody took them seriously and said, hey, come and do that with us. And then we treated everybody equally. And some people we had were students, for instance. And they would come in and they'd do their show, and we'd treat them exactly the same way that we would treat their lecturers, who would also come in and do a show. And they found that really refreshing, to actually be treated as artists and not, you know, be talked down to, not to have some hierarchy, which is what they would normally experience.
Pas de hiérarchie, des contacts plus humains. Ce n'est pas que l'outil radiophonique qui crée une émergence d'initiative. Même si, selon Mobile Radio, la radio est magique en ce que le live est porteur d'énergie et de vie, liveliness, s'exprimer en direct donne du pouvoir, et cette énergie radiophonique doit être couplée à une ouverture d'esprit où tout est possible.
It has to be a combination of it being radio, bringing this energy of being on air, plus this openness of anything is possible. And that's when those two things come together, that's when people really start to spark off each other and to have new ideas and for new things to develop. And for, you know, some people come into the radio and then they develop, you know, a night that they do in a bar somewhere that's related to their radio show. And they develop a community around their own radio show. Or they meet people in the radio because it's a hub. They meet people they wouldn't have met before, and then they start doing something different that they've never tried, or they get invited by other people to join in other things.
Pour des télés, lorsqu'ils installent une station de radio, c'est aussi une façon de donner du pouvoir aux gens qui y participent. Réunir des personnes autour d'un projet commun, qu'il soit culturel, social, politique ou les trois à la fois, c'est poser des bases d'organisation de personnes qui pourront être plus puissantes et peut-être plus entendues.
On aime bien dire que la radio, en général, elle est aussi importante sur la terre que dans les airs. C'est-à-dire que c'est pas forcément le but principal, c'est pas que, ou c'est pas forcément avoir des tas d'auditeurs par rapport au programme qu'on va faire. Une radio, par exemple, dans un centre culturel, dans un quartier, un quartier un peu difficile ou avec des problématiques sociales importantes, ce qui est le plus important, c'est pas forcément que tout le monde l'écoute, mais que tout le monde y participe. Et du coup, la radio, ça devient un peu un point de connexion, un projet commun qui permet aux gens de se réunir autour de quelque chose de très concret, parce que c'est aussi ça, la radio, c'est très concret. Il y a des heures, puis il faut s'y mettre à plusieurs pour faire un programme. Voilà, c'est pas un travail du tout isolé, c'est un travail de groupe. Et donc, un travail de groupe autour d'un projet concret, ça peut aussi permettre à des gens de s'organiser pour faire face à d'autres situations de la vie quotidienne.
Des télés installent des stations de radio dans des myriades de contextes différents. Zones très peuplées, zones de conflits miniers, zones rurales. à la demande d'organisations diverses et variées. Ce qui est sous-jacent malgré la diversité des contextes, c'est l'impact territorial fort de l'installation d'une station de radio.
Donc c'est vrai que les intérêts sont un peu variés, à la fois en fonction du groupe qui souhaite les monter, que ce soit donc une assemblée de voisins, une organisation politique déjà active depuis plusieurs années, un centre culturel, enfin voilà, s'il y a un peu des profils différents, qui se conjuguent avec des territorialités qui ont toutes leurs particularités. Donc c'est vrai que c'est un intérêt multiple, mais voilà, je pense que c'est important de remarquer que voilà, c'est à la fois un intérêt pour diffuser l'information dans les airs, mais aussi pas oublier que au ras du sol, une radio, ça peut avoir un impact territorial assez fort et assez important.
Retrouvez plus d'informations sur les sites internet des collectifs et artistes présentés dans ce documentaire. Le site de Tetsuo Kogawa, c'est anarchie.translocal.jp. Le site de DTL Communication Populaire, c'est dtlcommunication.wordpress.com. Mobile radio sur mobile-radio.net. Thomas Leland Collins sur cargocollectif.com/Thomas Leland Collins. Leland, L-E-Y-L-A-N-D, Collins. Merci à eux d'avoir participé à la création de ce documentaire et merci à Chloé Sidia d'avoir prêté sa voix à Tetsuo Kogawa.